Non, je n'ai pas la cote, je n'ai pas le numéro et je ne sais pas s'il est cité de la liste de points et de questions ni dans vos réponses. Mais je vous donne la date, le 5 août 2022. C'est un arrêt de la Cour constitutionnelle. Et l'arrêt a été cité hier, la séance d'hier. Cet arrêt décide d'une nouvelle distribution des sièges. Donc, au lieu d'avoir 151 sièges répartis en circonscription, il y a une seule circonscription électorale. Bon, je termine ma question. Je demande ce qui a été fait, que les décisions qui n'ont toujours pas été prises en vue des élections de 2025. Et quelle est la date exacte des élections de 2025? Je ne l'ai pas trouvée dans le rapport. Ensuite, paragraphe 24, le droit des populations, enfin des personnes appartenant à des minorités. Le comité prend note des efforts législatifs déployés par l'État pour ancrer les droits des peuples autochtones et tribaux dans la législation. Cela dit, nous restons préoccupés par la durée de cette procédure et par le manque d'inclusivité. Alors, est-ce que le consentement libre, préalable et en connaissance de cause des peuples autochtones et des populations tribales est demandé dans toutes les décisions qui les concernent? Ensuite, où en est le projet de loi sur les droits collectifs des peuples autochtones et tribaux? Y a-t-il eu des consultations avec les communautés autochtones? Quel est le contenu et les objectifs de ce projet de loi? Que fait l'État pour accélérer le processus d'adoption de ce cadre législatif pour la possession collective des terres et pour établir des lignes de démarcation des territoires autochtones et tribaux afin de qu'ils respectent les normes internationales? Il semblerait que les autorisations d'extraction de ressources naturelles, par exemple le bois et les mines, sur des territoires autochtones, continuent d'avoir cours sans demander le consentement préalable et en connaissance de cause des peuples concernés. Comment fait l'État pour que ces autorisations ne soient prodiguée qu'avec le consentement des communautés autochtones ou tribales concernées. Et puis, qu'en est-il de la dérogation des autorisations dans Picking Saron, dont on a parlé hier? Est-ce que, suite aux troubles de 2023 et 2024, vous avez annulé un projet agricole pour 50 familles mennonites qui portait sur plus de 300 000 hectares de terre, d'après nos sources. Le gouvernement de Suriname a été condamné parce qu'il ne reconnaît toujours pas la personnalité juridique, les juridictions, les droits territoriaux des peuples autochtones et tribaux. Trois arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l'homme en ont décidé ainsi en 2005, 2007 et 2015. Et le rapporteur spécial sur les peuples autochtones et du CERD en fait des recommandations à ce sujet. Est-ce que les arrêts de la Cour interaméricaine relatifs aux droits humains des peuples autochtones ont été effectivement exécutés, peuples autochtones en général, mais en particulier pour les affaires concernant la communauté Moiwana, Kalinya et l'Okono, et les Saramaka. Comment les droits des peuples autochtones et tribaux sont-ils intégrés dans les politiques nationales de développement? Pouvez-vous nous donner des exemples de l'application de la loi cadre sur l'environnement pour protéger les droits des communautés autochtones et tribales? Nous constatons avec préoccupation que les droits territoriaux n'étant pas suffisamment protégés, fait que les peuples autochtones sont vulnérables face à l'appropriation des terres par l'État. On constate l'adoption d'un décret présidentiel en octobre 2023 à l'encontre de la recommandation du Conseil consultatif qui avait proposé d'attendre la loi sur la reconversion des terres qui est en débat au sein de l'Assemblée nationale. Il semblerait que ce décret interdit que des titres fonciers des peuples autochtones et tribaux soient considérés comme valables. On considère que ces territoires sont des terres de l'État et donc ce sont